parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonjour, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine puisque nous sommes lundi 3 octobre 2022. Voilà, je vous le confirme, nous sommes en direct. J'espère que vous allez bien, sinon vous allez voir, d'ici la fin de l'émission, d'ici 23h, vous irez mieux. C'est comme ça, je ne sais pas, il se passe quelque chose. C'est, disons, l'effet confidence sur Beurre FM.
C'est l'effet Vanessa.
Enfin, je peux dire ça.
C'est moi qui le dis.
C'est toi qui le dis. Bon, si c'est toi qui le dis, ok. Moi, ça ferait un peu pompeux, vois-tu. Comment vas-tu, Giovanni?
Eh ben, écoute, salam Vanessa, azoule la France, azoule le monde entier. Voilà, tout va bien.
Hein. Il fait mieux que moi, vous avez vu.
Je vais bien, tout va bien.
Salam, azoule, tout. Moi, je dis bonsoir. Voilà, comme ça, je suis comprise par tout le monde. C'est bien, Giovanni.
Mais toi, tes pensées du soir, elles comblent aussi.
Voilà, c'est bien. Tu me rattrapes bien. Et ou tu te rattrapes bien, j'en sais rien, mais bon. Eh bien, écoute, moi, ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec toi, Giovanni.
Bah, moi aussi. C'est pour ça que je suis là.
Il y a une certaine complicité. Il y a quelque chose qui se passe entre nous et je trouve ça formidable.
C'est ce qu'on appelle le duo du soir.
C'est ça.
De la bande FM.
Ben oui. Mais on me le dit, hein. On me dit avec Giovanni, c'est fluide, c'est cool. Avec tout le monde, d'ailleurs, avec les autres réalisateurs, c'est pareil, hein. Mais avec Giovanni,
nous, c'est... Oui, en plus.
Ouais, avec Giovanni, je sais pas. Il y a une petite complicité. Il y a un petit truc. Ça s'explique pas. Voilà.
C'est comme ça.
C'est comme ça. On y va, mon Giovanni.
Allez, c'est parti.
On y va. Ils ont pas appelé, t'as vu? T'as vu ça? Ils nous font la tête. Non, non, appelez quand même, hein. Non, appelez. Sérieux.
C'est la première fois, c'est vite comme. On dirait
t'as
le. Tu sais, les tableaux comme.
À l'école?
Comme à l'époque, là. Tu sais, à l'école. Avec la craie et tout.
Eh ouais. Et là, pourtant, on n'a pas de.
J'avais
réponse.
Ça en maternelle.
Ah ouais, même en CP, hein, CE1, CE2.
On apprenait à écrire sur
ça. Ah ouais, tableau. Moi, j'aimais bien les écrire au tableau.
Moi, j'aimais pas, c'est le bruit de la craie.
La craie. Ah ouais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas.
Non.
C'est vrai. souvenir. Bon, bah écoutez, vous voyez, hein, on n'est pas de la même génération, mais on a les mêmes souvenirs. C'est comme ça, l'école, c'est l'école. Moi, j'aimais bien l'odeur à la rentrée. L'odeur des protèges cahiers, l'odeur des protèges cahiers, de la gomme.
Alors moi, ce que j'adorais, c'était la colle Cléopâtre.
Ah oui, la colle blanche, là.
Ouais, avec le petit pinceau. Là.
Le petit pinceau, qui colle rien du tout, d'ailleurs.
Ça colle rien du tout.
On dirait de la farine mélangée à de l'eau.
Ça servait juste à sentir bon, c'est tout.
Voilà, exactement. Ça sentait l'amande.
Ah, ouais, c'est ça, exactement.
Hein, l'amande.
J'ai encore cette odeur, ça.
Ouais.
Ah, ça rappelle quelques années, quand même.
Aïe, aïe, aïe. Tu vois, on n'est pas de la même génération, Giovanni, mais on a les mêmes
souvenirs.
Oui, mais
de toute façon, les méthodes de scolarité sont restées. Alors, il y avait des petites différences entre hier et aujourd'hui, mais il y a toujours les points communs.
Ah oui, moi, le jour de repos, je crois qu'on appelle ça comme ça, hormis le week-end, eh bien, c'était le jeudi, alors que vous, cette génération, c'est mercredi. Ça fait longtemps, mercredi.
Le jour des enfants.
Ouais, le jour des enfants. C'est le jeudi, moi. Puis après, on est passé au mercredi. Je suis partie juste à ce moment-là. Voilà, comme ça, tout ça ne nous rajeunit pas, chers amis. Mais bon, vous savez, l'âge, ça ne veut rien dire. Hein. C'est absurde, hein, parce qu'il y a des gens qui ils se prennent au jeu. Donc, ils arrivent à, je ne sais pas, 40 ans, par exemple, classe. Ils disent, ah oui, ça y est maintenant et tout, l'âge que j'ai. C'est bizarre. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Moi, depuis, je sais pas, parce que tu dors la nuit, tu te réveilles le lendemain, c'est pareil, quoi. C'était comme la veille, c'est le lendemain, c'est pareil. Enfin, je vois pas la différence entre la veille et le jour présent et le lendemain. Enfin, je vois pas. Je vois pas ce temps qui passe. J'ai pas compris. C'est pas parce que je dors la nuit le lendemain, ça y est, je suis plus vieille. C'est pas vrai. C'est absurde. Moi, je me sens pas. Je comprends pas. Tous les jours sont les mêmes. Je vois pas. Non. Les feuilles des arbres, quand elles tombent à l'automne, parce qu'elles jaunissent. Mais c'est du même arbre. Ce sont les mêmes feuilles. Au bout d'un moment, elles tombent. Bon, ben, c'est les mêmes feuilles. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà, c'est avec le vent, avec le je sais pas, j'en sais rien. Enfin, avec tout simplement changement de saison, voilà. Enfin, moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Alors vraiment, hein, je le dis sincèrement, la notion d'âge ne me parle pas. L'impact de l'âge ne me touche pas. Ça glisse sur moi comme l'eau de pluie qui tombe dans le caniveau. L'âge, pour moi, ça ne veut rien dire. Je suis la même personne, j'aime les mêmes choses, j'ai les mêmes goûts. Je vois pas ce qui va changer d'année en année. C'est phénoménal, non? T'as des gens, ils dépriment. T'as des gens, ils se prennent au jeu, tu sais.
Ah bah, leur 29 ans, c'est la dépression. Ah bah, c'est la crise de la trentaine et tout.
Ouais, voilà. Après la quarantaine, la cinquantaine, etc. C'est absurde, profiter du moment présent. Je sais pas, profiter des beaux moments de la vie au lieu de penser à l'âge qui passe, le temps qui passe. Ah, tu te rends compte, le temps qui passe. Ah ouais, hein, j'ai l'âge aujourd'hui de...
Ben non, t'as rien du tout. Des personnes, ils s'en fichent royal. Ils connaissent même pas... Mon père ne connaît même pas son âge.
Ben, il a raison, moi non plus. C'est incroyable. Je sais pas. Moi aussi. Les gens me disent ton âge. Je dis, mais arrêtez de poser la question, j'en sais rien. J'ai le même âge qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Exactement. Moi, je me souviens, pas si longtemps, il y a des choses, par exemple, des événements... Et on me dit, quand on me dit, ah ouais, ça fait il y a 10 ans, il y a 7 ans, 10 ans, 15, je dis, ah bon, bon, je m'en fous, non, pour moi c'était comme hier. Mais c'est vrai, quand je me souviens, c'était comme hier. Alors donc je vois pas. Non, arrêtez de vous prendre au jeu, sincèrement. Parce que si, comment dire, si vous prenez la vie au sérieux, je peux vous assurer qu'elle va se charger vraiment de se prendre au sérieux elle-même et de vous donner ce que vous attendez. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'il faut rester... Il faut toujours d'abord relativiser, déjà, et en même temps ne pas tomber dans le piège, justement, de ce que la société... Parce que la société, regardez, elle vous case. Quand on regarde la pub, tout ça, partout, tout ce qu'on nous écrit, nanana, partout. Eh bien, c'est un piège. Parce qu'on met les gens dans des cases. On catégorifie les gens. On dit la tranche d'âge. Tranche d'âge. Fut un temps, on disait, les émissions télé, etc. Alors, on se basait sur la ménagère de 50 ans. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est affreux. Ça veut rien dire, ça. C'est absurde. Moi, je comprends pas. Moi, il y a des choses que j'aime bien, que je partage avec des gamines de ma famille, des nièces, tout ça, qui ont 20 ans. Je vois pas la différence. Pas du tout. Non, j'aime les mêmes choses. Et je me prends pas, je veux dire, je suis pas tombée dans le piège de la société qui nous case, qui nous met dans des cases, qui nous compartimente et on n'a pas le droit d'y descendre. Voilà, je prends pas le compartiment, moi je reste telle que je suis. Non, c'est vrai. Et je peux vous assurer, on a l'un des mains, c'est du vécu. La vie vous donne, l'univers, tout ce que vous voulez, vous donne, eh bien, exactement ce que vos pensées ce que votre esprit, votre âme, tout ce que vous voulez, attend. Et qui nourrit cette âme et cette pensée, ces pensées, qui les nourrit? Eh bien, c'est vous, c'est à travers vos pensées, vos idées. Donc, vous pouvez diriger vos pensées. Donc, essayez de les améliorer, de dire stop, basta à des pensées négatives, toxiques. Et puis, par exemple, quand il y a des événements dans votre vie, on attire ce qu'on pense. Je peux vous assurer que c'est vrai. Il y a des personnes qui se plaignent toujours, qui disent qu'il leur arrive toujours des choses plus ou moins négatives, vous voyez. Eh bien, et elles se plaignent de cela. Eh bien, quand vous observez, parce que moi, je suis très observatrice, quand vous observez ces personnes, eh bien, elles sont pessimistes et elles pensent toujours négatives. Vous voyez, elles sont toujours dans le doute. Ah non, c'est pas pour moi ça, non. Oh, moi, j'y crois pas, la chance, machin, etc. Non, si tu crois pas en ta chance, si tu te prépares à du négatif, eh bien, l'univers te donnera du négatif. Parce que tu es ce que tu penses. Eh oui. Et c'est quoi les pensées? C'est de l'énergie. Et on est fait d'énergie. On n'est fait que d'énergie. Et cette énergie, si elle est négative, elle vous apporte des événements négatifs dans votre vie. Si cette énergie se transforme, si vous arrivez à la travailler et à la transformer en positif, je peux vous assurer que les événements de votre vie se transforment en positif. Vraiment. Et tout ça se travaille. Par exemple, quand il y en a qui vont, qui disent ce soir, je suis sûre, oh, c'est facile à dire mais pas à faire. Bah, attendez, je suis pas mieux que vous. Hein. Moi aussi, dans ma vie, j'ai traversé des épreuves. Hein. Oui, mais j'ai appris par la force des choses, eh bien, à des moments, en me disant basta, stop. J'ai appris à transformer eh bien, les événements négatifs en les améliorant, en les rendant positifs, tout simplement. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Ce que vous voulez de plus. Quand il vous tombe une tuile sur la tête, bah, que vous n'êtes pas mort, bah, vous continuez et vous relevez. Ça devrait vous renforcer. Voilà. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de mourir. Parce qu'après, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Classe, voilà. Mais tant que vous êtes en vie, vous avez cette énergie transformée-là en énergie positive. Et je peux vous assurer que plus cette énergie, eh bien, vous la travaillez positivement et chaque événement de votre vie, le pire qu'il soit, vous voyez, le pire, hein, je dis bien le pire, eh bien, si vous faites l'effort vraiment, mais allez, serrez les dents et vous faites l'effort à transformer les choses en positif, en vous disant, bon, ok, c'est arrivé, mais je suis pas morte, et je suis pas mort, je suis là, donc je vais me relever. Voilà, et là, eh bien, transformez votre énergie en énergie positive, respirez un bon coup, visualisez que du positif qui va vous arriver, et tout se transforme. Vraiment. C'est dans les pires moments de la vie qu'il faut faire ce travail-là. C'est pas quand tout va bien. Voilà. Petite leçon de positivité
moi, je dis,
du soir.
Moi, oui, je dis Vanessa. Giovanni.
Oui. Ah. Oh, merci mon Giovanni. Oh, tout ça pour
et ça,
moi.
C'est au nom de tous les auditeurs.
Oh, je t'adore.
Qui t'écoute, hein.
J'adore, ah oui. Giovanni, il est adorable ce garçon. Merci mon Giovanni, je t'adore vraiment, vraiment.
Mais avant la pause.
Avant la pause.
Tes pensées du soir.
Alors mes petites pensées du soir et puis mon sujet aussi juste après, après la pause. Hein. Alors donc mes petites pensées, une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjibulkoum, je suis Charles, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit, une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà. Et tout de suite, eh bien, on va passer à la pub, hein. Voilà, bah oui, on va mettre du gasoil dans la machine.
Ça coûte de plus en plus cher.
Exactement,
le gasoil.
Exactement, et juste après, bien le sujet. Attention, les personnes qui sont en attente, hein, parce que je vois Jamila, Fatima, Habibti, Safia de la Courneuve. Ne partez pas, les amis, les autres, on vous attend. Eh bien, vous ne serez pas hors sujet. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Moi, je vous ai concocté, eh bien, un sujet qui est, ma foi, d'actualité. Les droits des femmes dans le monde. Voilà, de très fortes disparités entre Nord et Sud. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. 01 53 48 3000, une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Et avant de vous annoncer le thème de ce soir, si je voulais annoncer déjà, mais bon, il faut que je vous lise un petit peu, pour vous donner un peu l'idée, voilà ce que j'ai écrit. Je tiens absolument à remercier notre auditeur fidèle et fidèle aussi sur Facebook, Philippe Daval. Bah écoute Philippe, merci infiniment puisque j'ai trouvé ce matin dans ma boîte aux lettres ici de la radio, eh bien un petit paquet qui m'a ravi hein, avec les deux livres, voilà que je vais lire avec grand intérêt. Donc merci Philippe et bon choix, hein, bravo, bon choix. Hein, ça donne vraiment parce que je lisais derrière un petit peu, l'histoire et enfin il y a deux livres donc les deux histoires et apparemment c'est très plaisant, c'est tout ce que j'aime en tout cas, vraiment, en plus des histoires vraies, c'est voilà qui relatent en plus de la d'histoires réelles, voilà, de vécu, et eh bien ça me fait vraiment 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 plaisir, voilà. Donc je te remercie Philippe, voilà. 01 53 48 3000, oui, très gentil notre ami Philippe. Alors, je suis contente aujourd'hui de trouver mes deux livres. Alors, on va parler d'un sujet, ma foi, tristement d'actualité. Voilà, les droits des femmes dans le monde de très fortes disparités entre Nord et Sud. L'égalité des droits juridiques, politiques, sociaux et économiques entre les femmes et les hommes, un long combat qui est loin de voir le bout du tunnel. Malgré Olympe de Gouges qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. La Révolution française ne modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Vous imaginez ? Si les femmes françaises ont lentement acquis les mêmes droits que les hommes, cette avancée est extrêmement récente. En 2022, il reste des pays où les femmes ont besoin d'un tuteur masculin. Au niveau de l'égalité salariale, les inégalités perdurent. Naître femme, c'est dans nombre de pays rester à vie une mineure. Voilà, en 2022 encore. Ah, c'est dire que vraiment, même ici en France, hein, on parle de droits de la femme, etc. On fait des comparaisons. Il n'y a pas si longtemps, hein, la femme n'était pas... Disons, elle n'était pas considérée comme l'égale de son mari, hein, puisqu'il avait droit sur elle. Et tout à l'heure, je vous lirai deux, trois petites choses, elle est étonnée. C'est-à-dire, c'est juste pas possible. Voilà. Rien qu'en France, hein, déjà. 01 53 48 3000. Allez, on va accueillir Jamila, nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Jamila.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue, Jamila.
Merci. En fait, je t'appelais juste pour te faire un coucou parce que personne n'a appelé.
Ah ben, et du coup, voilà. Il y a des appels. Merci, ben c'est ouais. Gentil. Qu'un amour. Merci, ma Jamila, vraiment.
Ben, je t'en prie. Je écoute, j'essaierai de participer à ton thème tout à l'heure.
Ah ben, écoute, reviens. D'accord. Reviens.
Voilà.
OK.
OK.
Je t'attends.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Bonne soirée.
Merci. Bisous, à tout à l'heure. Ah oui, j'aimerais bien vous participer à ce thème qui est, ma foi... Très intéressant. Alors, avant de prendre Fatima Habibti et de Paris et Safia de la Courneuve, j'aimerais vous lire ceci. Alors, écoutez bien, le Code civil français, hein, je dis bien de 1804, nous, dans nos pays, on est en retard de deux siècles. Hein. Deux, qu'est-ce que je dis, moi, deux ? Il y en a trois ou la quatre, mais la Belge ? Deux. On est en 2022. Ouais. De deux siècles et quelque chose. N'ayant en France, il n'y a pas si longtemps, deux siècles, c'est rien. Hein. Le Code civil français de 1804, qui a inspiré de nombreuses démocraties, est une catastrophe pour les femmes. Le Code Napoléon. Écoutez bien. Rédigé en 1804, le Code civil des Français, dit Code Napoléon, inscrit l'enfermement des femmes au sein de la famille. Considérées comme des mineures, elles sont soumises jusqu'en 1970 à l'autorité du père et du mari. Le Code civil consacre ainsi l'incapacité juridique totale de la femme mariée qui est considérée comme une éternelle mineure, majeure seulement pour ses fautes. C'est-à-dire si elle fait une faute, une erreur, une bêtise, si elle trompe son mari, alors là je vous dis, raconte même pas. Bref, si elle fait une faute, là on la considère comme majeure et on la juge comme majeure. Mais sinon, pour le reste, pour ses droits, il n'y a pas de droit. Elle est mineure à vie. Elle est en France, d'accord ? Interdiction d'accès aux lycées et aux universités. Oui, vous entendez bien, pour les femmes, dans le code civil français en 1804, il était mentionné interdiction d'accès aux lycées et aux universités. Interdiction de signer un contrat de gérer ses biens. C'est bien à elle. Hein. Exclusion totale des droits politiques. Interdiction de travailler sans l'autorisation du mari. ADN France, hein, en France. Interdiction de travailler sans l'autorisation du mari. Interdiction de toucher elle-même son salaire, Mskina. Il l'autorise à travailler, c'est lui qui touche le salaire. Ça vous fait penser à quoi ? Esclavage, Yac. On a fait un. Contrôle du mari sur la correspondance et les relations. C'est-à-dire que si elle reçoit une lettre de sa mère, Mskina, elle habite à l'autre bout de la France, ou de sa sœur, ou un membre de sa famille, ou là. Ah, elle peut pas, hein. Ah non. Contrôle du mari sur la correspondance et les relations. Qui elle fréquente, quelle copine ou Denia. On dirait les codes de la charia. Comme quoi, la charia, c'est, vous voyez, code, tout ça, c'est les hommes. Moi, je vous dis, le bon Dieu derrière, il, miskin, il est pour rien, le bon Dieu. Tout ça, c'est les hommes. Enfin, ça ressemble. Vous voyez, quand je vous lis ça, vous avez l'impression que c'est charia. Voilà. C'est les lois islamiques. C'est exactement ça. Anafera, c'est pour vous donner une idée. Tout ça, c'est les hommes. Bon Dieu, il est juste. Faut le laisser tranquille. Alors, interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation. On peut même pas voyager, miskina. Répression très dure de l'adultère pour les femmes. C'est-à-dire les hommes peuvent avoir autant de maîtresses qu'ils veulent, mais la femme, une fois elle fait, khlas, elle est cuite, miskina. Les filles mères, avant on disait filles mères, on disait pas mères célibataires, on disait les filles mères. Regardez, je fais déjà. Les filles mères et les enfants naturels n'ont aucun droit. Miskina, donc les enfants, ils sont nés, ils disent naturels, ils sont nés, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Voilà, la mère, cette femme, c'est une mère, aujourd'hui, mère célibataire. C'est une mère célibataire. Voilà. Le mec, il a disparu, il est parti, hein, elle l'a lâcheté, ben, voilà. Bref, elle se retrouve enceinte, la relève. Eh bien, elle, cette femme skéna, non seulement elle a été abandonnée, elle se retrouve avec son enfant toute seule, elle a aucun droit. Et l'enfant qui naît, c'est-à-dire l'enfant qui naît de cette union qui n'est pas, qui n'était pas légale, eh bien, parce qu'avec l'enfant, il le paye. Il le paye de sa vie. Il n'a aucun droit. Voilà. Ah oui, parce qu'avant, il y avait des termes. J'ose même pas dire, j'aime pas, parce que ça, je trouve que c'est tellement moche. Des pauvres enfants, vous vous rendez compte comment on les appelait? Non, mais terrible, hein. Comme si c'était de leur faute. Non, mais c'était barbare, hein. Ah oui, parce qu'on te dit, en France, moderne et tout. Il y a deux siècles, hier. Regardez comment que ça se passait. Ah ouais, non, c'est comme ça, hein. Alors. Voilà. Alors, Napoléon définit sans ambiguïté. Ada Napoléon, les colons, Napoléon. Napoléon, définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l'article 1124 de ce monument de misogynie qu'est le code civil. Ah ouais, c'est un monument de misogynie. Écoutez bien Napoléon ce qu'il a mis dans l'article 1124. Les personnes... J'ai essayé de limiter. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Voilà ce qu'il a écrit Napoléon. Ada Napoléon, les gars, Farhanenbe. Napoléon, Denia et tout. Tout le monde est content. Giovanni mort de rire. Non, mais c'est vrai. Il est au Panthéon, je crois. Il a fait un code. Aïe, 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 aïe. Tous, ils sont contents, Napoléon. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un code en 1124. Les personnes privées de droits juridiques, c'est-à-dire ils n'ont aucun droit juridique, ils n'existent pas. C'est qui ? Les mineurs, voilà, ils sont mineurs, donc incapables. Les femmes mariées, regardez, écoutez bien. Et on met dans le même truc, là, dans la même liste, les criminels, il met les débiles mentaux. Oh, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent de maladies mentales, on les appelait les débiles mentaux. Mais c'est terrible ! C'est péjoratif, c'est horrible.
Mais
hein.
Tu sais qu'avant, on jugeait que quelqu'un était un débile mental, on lui faisait même un truc là sur la tête.
Oui, lobotomie.
Ouais, on lui creusait carrément la tête.
Ah oui, oui, oui.
Un bout de tête et on pensait que ça y est, ça allait lui enlever le...
Oui,
c'est
on a... Incroyable, ça. Ouais. Ah oui, oui, non mais c'était barbare. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Alors écoutez bien, Mazel. Ah non, non, mais il y a des perles, hein, moi j'ai trouvé. Hein. L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. J'aime bien. C'est Napoléon qui a écrit ça ? Non, c'est pas possible. Ah non, si c'est lui, alors là, franchement, quand même. Non, écoutez bien, l'enfant appartient au mari, c'est-à-dire qu'un couple, ils ont un enfant, ben cet enfant, eh ben madame, si tu m'écoutes là, de l'autre côté de ton poste de radio, c'est pas ton enfant, il appartient à ton mari. Heureusement que t'es né après Napoléon. Heureusement que tu vis dans les années 2000. Parce que dis donc, avant, ton enfant, c'est pas ton enfant. Vous imaginez les femmes en France, comment elles vivaient? Non, non, c'était pas son enfant, c'était... l'enfant, il appartient au mari. Ils mettent au mari de la femme, c'est-à-dire parce qu'il y en a qui le met. Et elle met au monde, Bark Adamekan. Elle, c'est la machine, vous voyez, l'usine, la machine, c'est tout. Mais elle n'est pas propriétaire, disons, du résultat. Alors, l'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. Le famille, femme. C'est idiot, ça. Qu'est-ce qu'elle a écrit ? C'est débile. Attendez, je vais voir ce qu'elle a écrit. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. C'est débile, mon Dieu. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Qui c'est qui a écrit ça? C'est qui ça? Faut l'enfermer. Attendez, je vais lire. Non, ne dites pas c'est Napoléon. Oh là là. Ses descendants, excusez-moi, mais la vérité, j'espère que vous n'avez pas hérité de ça. Alors il dit, non mais c'est terrible, Napoléon, mémorial de Sainte-Hélène. Ah, c'est écrit au mémorial de Sainte-Hélène. C'est écrit ça. Il y a des débilités comme ça écrit sur les mémos, sur les monuments.
Normal.
Normal. Non mais attends, franchement. Attends. Mais c'est pas possible. Ah non, j'ai jamais vu ça, la vérité. Hein. Très honnêtement. Un enfant de 5 ans, il aurait pu. Alors, écoutez bien. Bref, la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Il en fait donc ce que bon lui semble. Code Napoléon. Ta-ta-ta-ta-ta. Il m'a l'habé pas. Code Napoléon, vous rendez compte? Alors moi, toute ma vie, j'ai entendu parler du code. Ah oui, grâce à Napoléon, on a... Grâce à Napoléon, Napoléon, les lois napoléoniennes, les noms. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Bref, enfin... Bon, je ne veux pas le discréditer, hein, paix à son âme, les Ahmo, hein, mais ce qu'il a fait quand même, c'était pas fufute, quoi. Hein. Alors, en 1810, écoutez bien, le devoir conjugal est une obligation. Il n'existe pas de viol entre époux. Ah, Yema. Ah, c'est pire que nous, Wallah l'Azim. Donnez-moi la charia. Ah, je préfère la charia. Ah ouais, c'est pas possible. Moi qui me plains, je me dis, en Algérie, tout ça, dans nos pays du Maghreb, la polygamie et tout. Non, 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 donnez-moi la polygamie, donnez-moi tout ce qui va avec. Ima, quand je lis ça, hein, c'est pas possible, attendez. Ah oui, je comprends pourquoi ils ont dit l'islam, il a sauvé les femmes. Oulah, Adébi vous a sauvé les femmes, l'islam, parce que quand tu lis ça, l'islam, c'est au 7e siècle. Napoléon, c'est 18e. Alors, 18e, Oulah, Adébi, la charia, elle était plus moderne que les lois de Napoléon au 18e siècle. Ah, attendez. Rappelez aux gens qui vous disent « Ouais, vos lois musulmanes, ah oui, les femmes, aucun droit. » Yarham babakoum, enregistrez cette émission et dites à toutes ces personnes qui critiquent les lois musulmanes, mettez-leur ça dans le nez. Vous leur dites « Nous, c'était au 7e siècle. Hein? » Et encore au 7e siècle, il y a des gens qui aujourd'hui ont mal interprété, mais la femme, elle avait quand même des droits. Elle pouvait hériter, elle pouvait... La femme française, ouelou, mskina. Au 18e, elle pouvait ni hériter ni ouelou. Ah, il m'a fait de la peine, j'ai envie de pleurer, la vérité. En 1810, le droit... Arrête plus de rigoler, il pleure de rire, lui. Le devoir conjugal est une obligation. Il n'existe pas de viol entre époux. Il y en a, ils continuent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont dans les tribunaux. Arrêtez les mecs. Ça y est, c'était Napoléon. Napoléon, il est mort. Il y a longtemps, hein, classe. Ouelou, Sainte-Hélène. Il n'a pas ressuscité. Il a pas Jésus, hein. Alors, non, mais c'est vrai. Alors regarde, non mais c'est vrai, il pouvait violer sa femme normale, non, c'est le devoir, elle n'avait pas le choix. Et nous ils te disent, pourquoi c'est marqué dans le Coran que la femme doit avec son mari? Non, c'est quand même plus sympathique, je trouve, nos lois, finalement. Alors en 1816, alors en prime pour toutes et tous, l'interdiction de divorcer. Aïwa, des lois. C'est-à-dire tu peux même pas divorcer, c'est-à-dire il peut te faire ce qu'il veut ton mari. Macache, t'en peux plus. Tu vas mourir, tu vas être où? Eh ben, crève, qu'est-ce que je te dise. Khalas, tu dis, ou tu crèves ou tu divorces, t'as pas le choix. Ou tu divorces pas. Interdiction de divorcer, t'as pas le choix. Ben oui, t'as sa chose, tu lui appartiens. Ah, ben oui, c'est... En fait, ça a été inspiré par l'esclavage. J'ai rien compris à ce truc. Ah là 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 là, mon Dieu, tu te rends compte, la femme mariée, elle est mineure civile. Ah ouais. Alors, je lis autre chose. Hein. Attendez, cette inégalité de personnes en vertu du sexe déclarée lors du mouvement, hein, lutte issue de ces mots. Mais ça, je comprends. Hadek la pauvre, olam de gouge, la yarhamah, parce qu'il y en a Hadek le mara, olam de gouge. Ben, la pauvre femme, elle a osé dire. Et les femmes, on peut être comme vous, un peu les hommes. Ils l'ont monté sur l'échafaud, ils l'ont coupé sa tête. 0153483000, une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Non mais c'est vrai quoi. Oui, oui, non, mais je parlais avec Giovanni. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Je peux vous assurer qu'il y a des vertes et des pas mûres, hein, vous allez voir. Hein. Tout doucement, petit à petit, en prenant les appels, je vous citerai quelques dates. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ah non, franchement, la femme musulmane, elle avait beaucoup plus de... non, mais je dis ce que je... Vous connaissez ma franchise, hein, vous savez comment je tape hein, sur... sur les inégalités, etc. Mais très honnêtement, la femme musulmane avait beaucoup plus de droits que la femme française ces dernières années, il n'y a pas si longtemps, vous vous rendez compte ? Attendez, même la femme du prophète, elle pouvait gérer ses biens, etc. Ah ouais, les femmes avaient leurs biens, et elles géraient leurs biens, leur héritage, etc. Personne ne leur prenait. Au 7e siècle, ici en France, au 17e, 18e siècle, la femme... Elle n'a pas le droit de gérer son argent, pas le droit de compte en banque, rien le droit. Elle est le bien de son mari. Et en plus de ça, il a le droit de la violer, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de viol entre époux, pas de divorce. Elle doit le subir jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas possible, ça. Alors donc, vive la polygamie, Samhouli, parce que quand tu es polygame, eh bien, au moins, tu es un peu soulagé. Au moins, tu dors toute seule avec tes enfants, tu es tranquille. Pendant qu'il a, il va avec les deux ou trois autres femmes, tu es tranquille. Voilà, au moins, t'es débarrassé. Mais Hadim Skina, il n'y en a qu'une. Tous les soirs, il y a qu'elle ou Denia et elle subit. Non, bzef, la vérité. La femme française, Wallah al-Azim, j'ai envie de pleurer, Mskina. Fait de la peine, hein, quand même, hein. Vous voyez? Regardez, par exemple, je lis juste deux, trois dates et je prends les appels. On a Zoul, il est là. Et Fatima et tout, on va faire un petit débat. Alors, écoutez, des petites perles comme ça. En 1907, Smaoumli, hein, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. En 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. En 1907 seulement. Alors qu'au 7e siècle, Khadija, Marta Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, la femme du prophète, elle avait ses biens, elle gérait ses biens, et les femmes de l'époque géraient leurs biens. Les maris n'avaient pas le droit de toucher aux biens de leurs femmes. Alors, Dieu Colonna, comme quoi. Écoute. Alors. En 1938, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. En 1938, quoi, l'âge de vos parents, vos grands-parents, l'âge de ma mère, 1938. Il n'y a pas longtemps. En 1938 seulement, les femmes pouvaient s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Vous imaginez ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Principe, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. C'est-à-dire, même son bien à elle, qu'elle a hérité, elle n'avait pas le droit de le gérer. Voilà, c'était son mari qui gérait son bien à elle. Ça, c'est la pire des inepties. En 66, il n'y a pas longtemps, le Berah, 66, il n'y a pas longtemps. En 1966, seulement, les femmes ont pu gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. C'est incroyable, en 66. Alors, quoi d'autre ? Le principe d'égalité, rémunération, ouverture. Non, mais je lis les pires trucs, quoi. C'est pas possible. Alors, l'obligation de mixité dans les établissements publics d'enseignement est créée. La loi établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En 1983. Non, mais attends, tu rigoles. 83. Avant-hier. Alors, quoi d'autre ? La première femme premier ministre en France, c'était en 91. Il n'y a pas longtemps. Edith Cresson. Vous voyez, alors c'est pas la peine qu'on vienne nous la jouer, hein. La sérénade, on dit, nous en France, les femmes avaient des droits, Non, attendez, faut être sérieux là. Hein. La loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents mariés, concubins, divorcés et séparés. Il a fallu attendre 1993. Vous vous rendez compte ? Pour avoir... que le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale... Oui, parce qu'avant, c'était le père. Mandat électoraux, une nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, la loi relative au divorce prévoit l'éviction du conjoint violent du domicile. Ah oui, La loi relative au divorce prévoit l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal afin de protéger les femmes victimes de violences. En 2004, hein. En 2004, Park. C'est-à-dire qu'on pouvait le, il fallait qu'il parte. Avant, non, il peut rester violent, mais allez. Ah là 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 là. Alors. La loi renforçant la prévention de la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs établit une égalité quant à l'âge légal du mariage 18 ans pour les femmes et les hommes. 2006. Non, non. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis. T'es où, Fatima ? Elle est où, Fatima ? Fatima, j'allais te prendre avec Ezoul. T'es pénible. Reviens. Reviens, Fatima, parce que je voudrais te passer avec Ezoul.
Avec
Méziane. Reviens, Fatima, reviens. Bonsoir, Ezoul.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Aïma, t'as une voix.
Hein. Bonsoir.
Comment ça bonsoir. Va, mon Méziane ?
Bah, moyennement, moyen.
Ça s'entend, hein. Ah, t'as arrêté la cigarette pour de sérieux ?
Oui, oui, j'ai arrêté. Ouais,
Alhamdoulilah. Ah, ben tant mieux.
Mais bon, mais j'ai encore les bronches qui.
Ouais, mais tu, ouais, parce que le temps que ça dégage
ouais,
ça
nettoie, ouais.
Ah bon, ouais.
Ça nettoie, ouais.
Ah ben bah, écoute.
C'est tellement encrassé.
Ben bah, oui, attends.
Ah oui, ça fait des années. Hein.
Ah ben bah, oui, alors maintenant il faut appeler un. Il faut un ramoneur.
Faut un ramoneur.
Une ramoneuse ou un ramoneur.
Alors, tant que tu viens de découvrir que les lois.
Non, je ne viens pas découvrir, femmes, mais bon. Je voulais justement.
C'est vrai quand on y pense, quand on y pense, même dans les sociétés dites en avance, telles que l'Europe, la France, on s'aperçoit que l'évolution, elle a mis quand même pas mal d'années avant d'arriver.
C'est fou, hein.
À ce que les femmes soient à peu près pareilles que les hommes d'un point de vue des droits.
Ouais.
C'est incroyable, hein. Je ne sais pas quoi c'est dû.
À quoi c'est dû, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes, c'était eux qui dirigeaient ce monde, les sociétés, on va dire,
oui,
partout, un petit peu partout. Et en Europe, en Occident, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, les jeunes générations, parce que bon, elles ne s'intéressent pas trop en vérité à l'histoire, hein, l'histoire des sociétés, eh bien, pensent, injustement, pensent qu'en France, eh bien, ça a toujours été comme ça. Les femmes avaient toujours des droits. Etc. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Ah oui. Et les féministes se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup battues. C'est vraiment des luttes.
Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, on disait quel est le nom du chef de famille.
Oui.
Le chef de famille,
oui.
C'est-à-dire que dans un couple, il fallait qu'il y en ait un qui soit chef.
Ah ben c'est l'homme, le chef, on ne dit pas la chef.
Oui, oui.
Ah oui, le chef de famille, c'est vrai. Moi je me souviens, en mon temps, on disait le chef de famille.
Voilà.
C'est fou,
mais
hein.
Mais bon, c'est...
Mais t'as vu les lois napoléoniennes ?
Oui.
Elles étaient corsées, hein, c'est le cas de le dire.
Non, mais c'est étonnant quand même.
Incroyable.
Parce que c'était des gens intelligents pourtant.
C'est quoi intelligent ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Parce que intelligent, j'ai jamais compris ce terme. Il faudrait qu'on.
Donc, quand je dis intelligent, ça veut dire que ce sont des gens qui ont quand même un esprit assez.
Bah, il a fait la guerre, Napoléon.
Développé.
Il a fait la guerre. Il a fait beaucoup de guerres.
Donc, comment est-ce que.
C'est pas un philosophe, hein, il a fait beaucoup de guerres.
Que les femmes étaient différentes des hommes.
Oui, parce que les hommes, ils voulaient que ça soit
ainsi. Logiquement, mais pas plus.
Tu sais qu'on pensait que la femme était moins, justement, on parlait d'intelligence, moins intelligente, et qu'on pensait que son cerveau était plus petit. Enfin, fut un temps où c'était le cas, on pensait, vraiment. Et c'est pour ça qu'on en a fait un être inférieur. Alors, oui, mais Ziana.
Oui, normalement, les femmes, bon, d'un point de vue du cerveau, je ne sais pas si elles sont plus intelligentes ou moins intelligentes.
Non,
mais d'un point de vue des droits, je pense que.
Elles ne sont pas différentes des hommes.
Raison, il n'y a aucune raison qu'on soit même intelligent ou pas intelligent, qu'on enlève des droits, qu'on ait des droits supérieurs. Voilà.
Oui, et puis les femmes.
Non, moi j'aime bien être le chef à la maison, mais bon.
Les femmes sont des êtres humains comme les hommes, c'est tout. Mais c'est... et que chacun a son intelligence.
Il y a des femmes, il y a des femmes chirurgiens, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes.
Oui, mais ça ne veut rien dire.
Il n'y a pas de général.
Ah, mais l'intelligence, justement, à chaque fois je le rappelle, l'intelligence est un mot qui est galvaudé parce qu'on le met à toutes les sauces. On dit, par exemple, on va dire d'un médecin. Ah, il a fait de grandes études, il est spécialiste, très intelligent. Non, il n'est pas très intelligent, le médecin. Il est intelligent dans son domaine de la médecine.
Il a des connaissances.
Voilà, un médecin, tu lui demandes d'arracher une dent, peut-être qu'il ne saura pas faire, tu vois. Donc, ce n'est pas un dentiste. Donc, ce qui fait que c'est dans ce domaine.
Et non, mais je parle d'un point de vue de l'esprit, l'esprit de...
Ah, mon Béziane, hey, Emma, tu me tues.
Non, mais je parle de l'esprit, d'ouverture d'esprit.
Ben, ça veut rien dire. Moi, je connais des médecins qui sont complètement hermétiques et fermés. Amralokine, Kekarantazeta,
Zetoune.
Ah oui, ça veut rien dire. Et tu as des gens qui des ouvriers ou peu importe, hein, parce que c'est pas péjoratif. Khadmet Rajel Siedha, comme on dit. Hein. Donc, celui qui travaille, honorable. Celui qui balaye une rue, il est honorable, il a son intelligence. Et j'ai beaucoup de respect. Et d'ailleurs, je tiens absolument à passer un grand hommage et beaucoup d'amour et d'amitié que je partage ce soir avec ce qu'on appelle aujourd'hui, ils ont un autre nom, les éboueurs, qui font un travail mais vraiment remarquable et qui sont très intelligents dans ce qu'ils font. Et je sais qu'on est écoutés parce qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, pendant une ronde de nuit, ils nous ont appelés. Il y en a un qui est. Donc l'intelligence, elle est partout. Un boulanger est plus intelligent qu'un chirurgien. Quand il fait ses croissants dans son domaine de la boulangerie, de la pâtisserie. Et un chirurgien est plus intelligent qu'un boucher dans son domaine. Et vice-versa, un boucher plus intelligent
donc,
que.
En fin de compte,
chacun est intelligent dans son domaine.
En fin de compte, ça n'a rien à voir avec l'instruction.
Alors Giovanni me dit j'ai rien compris, je t'explique.
Femme Toilou,
il me dit. Il parle comme moi. Comment est-ce que t'as dit? Non, il parle comme moi, je te jure. Il a pris sur moi. Vas-y. Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit la femme Toilou.
La femme Toilou. Il a mon accent et tout. On dirait c'est mon fils. J'adore. J'adore mon Giovanni. Alors, Giovanni, je disais. Un boulanger. Parce que l'intelligence, c'est un mot qui veut tout et rien dire en même temps.
C'est vrai.
Voilà. Donc, tout le monde est intelligent dans ce qu'il sait faire.
Oui.
D'accord? Alors, je prenais l'exemple d'un boulanger. Un boulanger qui fait, tu as vu les gâteaux qu'il fait, etc., les recettes, et puis le pain. Voilà, le pain, les différents pains, etc., tout ça, ça demande tout un art et de pesage et de dosage et tout ce qu'on veut, hein. Voilà, et la viennoiserie, hein. Alors ça, il y a tout ça. Donc, dans son domaine, un boulanger, pâtissier, est plus intelligent dans son domaine, à lui, qu'un chirurgien ou un médecin qui ne saurait pas faire de la boulangerie. On est d'accord?
Bien sûr.
Voilà. Et vice-versa. Chacun est intelligent dans son domaine.
Exactement.
Quand tu demandes, tu demandes à un avocat ou à un médecin de faire des gâteaux, il ne saura pas faire. Ou de faire de la cuisine, il ne saura pas faire. Alors qu'un cuisinier, il a l'art.
Il y a des médecins qui savent bien faire à manger.
Non, mais il ne sera pas aussi efficace qu'un cuisinier, un grand chef, etc.
Chacun
donc c'est pour dire que chacun est intelligent dans son domaine.
Chacun son domaine de prédilection.
Voilà. Toi, tu es intelligent dans ton domaine de la réalisation. Voilà, moi, je ne saurais pas faire ce que tu fais. C'est comme ça. Donc on a tous, quelque part, une intelligence. Et Méziane, il a son intelligence, on la cherche, on ne sait pas où il l'a mise. Hein.
Moi, je n'ai pas d'intelligence, parce que si j'étais intelligent, je ne sais pas où je serais pas là.
Aïe, aïe, aïe. Mais bien sûr que tu es intelligent de... Et tu le sais, mon Méziane.
Ben oui. Plus intelligent que moi, ça n'existe pas.
Alors, donc on a un sujet qui est très important.
Non, mais je crois
Vas-y.
Que Vanessa.
Oui.
La faculté de raisonnement, je parle du raisonnement, le bon sens.
Ah oui, ça c'est autre chose, ça.
Le bon sens. Est-ce que un homme honnête, sincère, sérieux, peut imaginer qu'une femme est différente de l'homme d'un point de vue du droit? Alors, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas les mêmes droits.
Mais ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de pouvoir. L'homme a toujours voulu dominer la femme.
Non, mais le sentiment de justice, quand même. Le
ah non, mais il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas ça. Mais Ziane, on s'en fiche. Il n'y avait pas de morale. La morale n'était pas la même. Il n'y avait pas ces notions. Il n'y avait pas déjà l'empathie.
Les religions.
Oui.
Les religions.
Oui.
Comment est-ce que c'est perçu la femme par rapport à l'homme, que ce soit chez les musulmans, que les chrétiens ou les juifs?
Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, les hommes.
Le statut de la femme est toujours
inférieur.
Dans les trois, hein.
Ben oui, ça les arrange bien, les hommes.
Et ça vient
d'où? C'est les mecs. C'est eux qui ont fait ce qu'ils ont voulu.
D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y a pas eu de prophétesse.
C'est ce que je disais la semaine dernière.
Voilà.
Pas de femme prophétesse. Écoute.
Ah,
ça c'est Ahmed de Gaza.
Je vais me faire incendier là.
Ahmed de Gaza. Non, alors tu sais ce qu'on va faire? On va prendre Safia, elle va échanger avec toi. On a Karim Danière aussi. Hein. Bonsoir Safia.
on a eu
ma petite Safia.
Salut.
Ça va ma chérie, comment vas-tu?
Ça va.
Alors, tu as entendu ce soir le
sujet?
Bonjour
ma chérie. Oh pardon.
Arrête, salut, attention. Oh mon amour, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça y est, voilà.
On va mettre le rectangle blanc.
On se connaît de manière intime, moi.
C'est ça,
à travers confidence.
C'est ça l'égalité. Quand les femmes vont pouvoir braquer les hommes.
Braquer? C'est quoi braquer?
Draguer.
La drague.
Parce que braquer en...
Imagine qu'une femme vient demander la main, elle va demander la main à un père et une mère, elle va dire, je viens demander la main de votre fils.
Ça doit exister, à mon avis.
Ça serait rigolo.
Attends, on va prendre Michel.
Ouais.
Michel, bonsoir Michel. Tu es avec
Méziane
et Safia, et puis on va prendre Karim aussi.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
tu vois, elle est en train de chanter, Safia.
en arrière-plan.
Ah, je vois ça, c'est bien. Tu nous mets un fond agréable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon thème de ce soir?
Moi, tu m'as fait rire.
Moi, Vanessa, si je peux me permettre, tu n'es pas objective.
Puis j'ai lu. Attends, c'est moi qui... C'est Napoléon qui ne l'était pas, peut-être, mais moi...
C'est la faute de Napoléon. Il y a deux siècles et demi.
Ah non. Ah non, ma chérie, t'as pas le droit de dire ça, parce que les lois napoléoniennes sont restées longtemps. Regarde, quand je te lis... Regarde, écoute-moi bien. Mais non! Arrête d'être chauvine, on s'en fiche, on est tous français. Regarde,
non, mais
écoute.
Mais je suis pas chauvine.
Attends, écoute, Michel. Michel, écoute-moi, ma chérie. Quand je lis que les femmes... ont pu s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari en 1938, ça fait pas deux siècles quand même. Hein. 1938, c'est l'âge de ma mère. Voilà. Que les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire en 1907, ça va, c'est pas au 17e ou 18e siècle. Alors attends, hein. Des vertes et des pères mûrs. Non mais les femmes, il n'y a pas longtemps.
L'ouverture d'un compte à la banque.
Le droit de vote. Le droit de vote en 68, c'est pas de ma faute.
Le chéquier.
Ouais.
Le chéquier en 1965 en France, je crois.
Ah bah tu vois.
Oui.
65. Je sais pas quel âge tu as, Michel, tu devrais pas être contente. 65 non, le chéquier. Le droit de vote.
Non mais je suis d'accord avec
les pauvres françaises, moi j'ai de la peine, la vérité.
Il y a deux siècles et demi Napoléon quand même.
Non mais oui, mais c'est resté. Puisque en 68, c'est pas deux siècles, ma chérie.
Ça a bougé en France.
Ah, maintenant?
Ça a bougé.
Mais en 68?
Heureusement.
Oui, mais en 68, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps
non,
que la femme a pu avoir son... Voilà,
non,
qu'elle
non,
peut voyager, qu'elle peut avoir son compte bancaire, qu'elle peut travailler sans l'autorisation de son mari. Il n'y a pas si longtemps, ma Michèle.
Il paraît qu'elle n'avait pas le droit de porter un pantalon.
Ah oui, tiens, c'est... Je crois que c'est encore dans le code, mais bon, on a le droit...
Ils ont oublié de l'effacer.
Ils ont oublié, ouais. Ouais.
Vanessa?
Oui, Safia.
Oui, parce que dans ta thématique, tu m'as fait replonger dans mes études de droit. Mais ce que je voulais te dire,
c'est qu'il faut recontextualiser la périodicité du code napoléonien. Il y a eu des...
Mais Napoléon, c'était... Mais les... Tu sais qu'il y a des lois encore de Napoléon
Laisse-moi être synthétique et direct. Donc, dans la recontextualisation, on arrive au renversement de la monarchie, et après, on arrive, c'est sous l'Empire napoléonien.
Mais je m'en fiche de ça, moi.
Attends, pardon. Et dans cette recontextualisation, c'est un patriarcat, un tantinet fois peu, très ancré dans sur le mode social. C'était l'époque aussi de Hugo. Et la femme, elle était un objet, et un objet d'appropriation tel que tu l'as édicté.
Ah oui, comme un bien,
donc,
un animal.
Femme, elle était, la femme, après on a instauré une société bourgeoise qui avait la valeur du travail, la valeur de l'argent, et il y a l'empire et la colonisation qui s'est étendue. Donc il fallait bien verrouiller la condition de la femme pour pouvoir s'étendre à travers la totalité de la captation qu'on a fait en tant qu'empire colonisateur tel qu'on s'est déployé à travers le monde. Et donc, par rapport à ça, effectivement, c'est terrifiant, c'était des conditions dramatiques. Enfin, tu as parfaitement raison, c'est objectivé, c'est un fait historique. Après, de l'autre côté, moi, je peux me balancer sur l'ici et le maintenant. Le féminicide est toujours présent et la condition de la femme étant encore très, très, très pénible. Il n'y a que dans des couches ultra favorisées que ça se passe bien. Et chez les bobos,
oui, mais ce qui est triste aussi dans l'histoire, c'est que c'était vraiment, ça faisait partie des lois, c'était institutionnalisé,
oui,
c'était quelque chose qui était mis en,
pourquoi c'est une grande
qui était écrit sur les murs de.
Vanessa,
pardon.
Vanessa.
Oui.
Pourquoi Napoléon est une grande figure? C'est lui qui nous a ancré la toute puissance parce qu'on a dégagé le monarchisme. Enfin, la monarchie divine, et on a instauré la laïcité. Et cette laïcité, elle a pris enracinement dans nos valeurs qui sont encore très puissantes dans notre système juridique.
Oui,
et de l'autre côté, cet ancrage patriarcal, tel qu'il était édicté dans le code de 1804, il a été difficilement réformé. Mais la condition de la femme, elle est encore très difficile dans notre société. Tu le vois, on le voit tous, et on le comprend et on s'en saisit. On regarde juste l'effet de féminicide et l'effet des violences conjugales.
Oui, ça c'est
ce qu'on a vécu sous le Covid. Hein.
Ah oui, ça c'est encore autre chose parce que bon, c'est puni par la loi aussi. Hein. Alors que là, la femme, par exemple, si elle subissait de la violence de la part de son mari ou s'il la violait, eh bien il n'y avait pas de viol, c'était considéré comme pas de viol, pas de violence.
C'était codifié, légiféré par la loi,
droit, mais c'était pas puni.
Et après, de l'autre côté, elle était un objet, ne l'oublie pas, une grande figure de notre histoire littéraire, c'est Hugo, comme il s'appelait, Victor Hugo. Et Hugo, il avait
Tu l'appelles Hugo, toi ? Pourquoi, c'est ton pote ?
Ouais, moi, tous les grands...
Appelle-moi Hugo.
J'aime
bien l'appeler Hugo. Tu sais, depuis tout à l'heure, tu dis Hugo, je dis, c'est qui, Hada, Hugo ?
Peut-être c'est Victor, Victor.
Mais je sais, je me suis dit, peut-être je suis passée à côté d'un truc. Elle m'a dit, Victor. J'ai dit, Hugo, qui ? Victor Hugo. Ah, elle l'appelle Hugo. C'est bien. Il y a de l'intimité entre vous deux.
Moi, Victor Hugo, j'ai tout lu. Je kiffe.
Ah, j'adore. Attends, on va prendre Karim avec nous. Karim de Danières. Bonsoir, Karim.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Karim. Bienvenue, tu es avec Safia, avec le roi mage. Je vois le roi mage. Et Michel.
Bon, alors, comme d'hab, je vais faire mon Karim. Tu vois, c'est il y a 3-4 semaines, on avait un débat.
Oui.
On a même fait un pari. On avait parié un restaurant d'ailleurs. Et tu m'as dit, mais Karim, jamais. Je t'avais dit, compte en banque en France, 1970. Tu m'as
c'est
dit,
vrai,
jamais. Tu as eu l'honnêteté de vérifier, 65, c'était 1969.
65. 69. Incroyable.
Vanessa l'avait vérifié. Donc, c'est pas si vieux.
Non,
maintenant,
c'est pas vieux, c'est vrai.
Après, la diatribe sur Napoléon, elle est juste, le code napoléonien. Mais je suis assez d'accord avec, c'est Safia qui a parlé.
Safia, oui.
Il faut mettre en perspective, c'était il y a 2 siècles. Donc j'ai pas aimé ta comparaison en disant...
Non.
En gros, chers musulmans, écoutez, ils disent
c'est du second degré.
Il y a 2 siècles.
Mais c'est du second degré.
J'ai pas capté le second degré. Hein.
Ah, vous avez c'est comme quand Tariq, il est à l'antenne, il fait du second degré.
On est teubé.
Attends, Tariq aussi... Attends, écoute, Karim, est-ce que... Tariq, quand il est à l'antenne avec moi, quand il co-anime avec moi, je lui disais, tu sais, quand on était en pause, fais attention parce qu'il y en a, le second degré, ils vont pas trop comprendre. Il fait, mais si, quand même. Et là, c'est du second degré. Vous imaginez les lois de la charia, moi. Non, mais ça va pas, non? Ah, c'est à gerber. Ça va. Mais là, je fais du second degré. Et même Giovanni, qui était mort de rire derrière son pupitre de l'autre côté, il était mort de rire. Giovanni, il en pleurait. Et tu as compris, Safia?
Oui.
Voilà, je renvoie tout ça, moi, dos à dos. Karim qui dit...
Ça veut dire quoi, le second degré?
Je peux rapporter un élément par rapport au principe de la foi et de l'islam.
J'ai fait le parallèle entre les deux, parce que c'est toujours les femmes, les pauvres, qui sont lésées. Vas-y.
Ouais, mais après, tu soulignes bien... Pardon.
Vas-y,
ça bien le fait que le patriarcat et la domination, c'est depuis l'origine de l'humanité que l'homme, il sera toujours à vouloir mettre la femme sous rouleau compresseur, ça.
Bah oui. Mais regarde ce qui se passe en Iran. En Iran, ce qui se passe actuellement. Rien que ça, déjà. En Afghanistan, etc. Donc, ils peuvent. Ils ont le pouvoir. Pardon, Karim.
Non, mais le principe. Alors, déjà, bon, à l'échelle de l'histoire, on va pas faire historia ce soir. C'est pas toujours vrai que la femme a été soumise. Mais bon, bref, on va rentrer dans les détails. Oui, bien sûr.
Ah bon?
Et ceux qui ont un peu de recul sur l'histoire.
Mais écoute, donne-nous des références, Karim. T'es tout le temps revendiqué, mais tu donnes pas de références. Donne des références.
Bah, c'est la preuve quand je t'ai parlé du droit au chéquier. Par là, c'est que.
La femme a été soumise il n'y a pas si longtemps.
Oui, mais la femme était soumise, mais après, je peux te dire le péché originel dans ces cas-là. Voilà, le péché originel.
Non, mais ça, c'est autre chose, c'est des légendes.
Pas la religion.
Oui, voilà, comme dit Michel. C'est pas intéressant.
Le péché originel, c'est pas. Mais le péché originel, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir avec la religion.
Ah bah évidemment que si.
Bon. Ah ben pour moi non, mais bon. Mais après,
moi
je suis pour l'égalité femmes-hommes depuis pas depuis que c'est à la mode, depuis tout le temps. Mais les sociétés, elles évoluent en fonction d'un contexte. C'est à regretter, elles évoluent sous des temps longs. Mais tu vois ce qui se passe aujourd'hui en Occident, on est dans l'effet inverse où on remet l'homme. Dans sa globalité, comme étant bientôt un agresseur,
un prédateur.
Un idiot, un prédateur. Tu vois, non, mais il y a un moment, tu vois,
c'est
dur de trouver les curseurs.
Attends, Michel, elle te répond, vas-y.
Michel, souvent, je suis désolée, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu réponds à Michel? Elle te dit, c'est vrai.
J'en sais rien, t'as un dénominateur, t'as une stat, non. Après, on peut dire que oui, les violences sont plus importantes de l'homme à la femme que de la femme à l'homme.
Parce qu'on en parle maintenant, c'est tout.
Ça, c'est réel. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer d'un effet à un autre. Moi, franchement, je suis content d'avoir mon âge, hein, mais largement. Parce que là, comment j'aurais fait? On ne peut plus s'adresser à une femme. On se dit, voilà, on ne peut plus dire mademoiselle, comme si c'était quelque chose de... d'infamant, alors que...
Non, mais c'est pas moment, ça. Bien sûr qu'on est en train de passer
si
par une
phase... On est dans une phase...
Oui, une phase compliquée, parce qu'on est à un tournant des mœurs, on va dire. Hein, parce que les hommes, il faut dire ce qu'il en est. Je veux dire, il y a pas si longtemps, il y a 10-15 ans en arrière, je veux dire, dans le métro, on te met la main aux fesses. Attends, tu peux même pas... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas au commissariat, il y a 20 ans en arrière, on trionnait.
Il y a pas tous les hommes de ma génération qui avaient ces comportements, je suis désolé.
Mais tu parles pour toi, mais il y avait beaucoup d'hommes.
Moi, mais je suis pas tout seul.
Non, mais Karim, il y avait beaucoup d'hommes.
Tu parles avec des hommes,
tu n'es pas une femme. Parle avec toutes les femmes, là, ce soir. Parle avec toutes les femmes. Au moins une fois, au moins quelques fois dans leur vie, il leur est arrivé des histoires inimaginable.
Oui,
mais à toutes,
mais là,
ça nous est arrivé.
On est dans un effet.
À toutes, moi, je vais pas raconter ce qui m'est arrivé.
Maintenant. On a l'impression
mais à
que
toutes,
tous les jours.
On a vécu à Paris, on a eu, il y a des moments où on s'est retrouvé dans des situations terribles.
Oui, ça, c'est,
en tant que femme.
Absolument
soit
pas.
Dans le métro, soit dans la rue. Bien sûr.
Sûrement,
on s'est ramassé des mains
en
fesses, des mains sur la poitrine, des mots vulgaires.
C'est compliqué d'être un homme aujourd'hui. Tout simplement.
Non, bah oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes parlent. Elle a raison, Michel. Mais fut un temps, on ne pouvait pas s'exprimer.
Non, mais c'est normal qu'elles refusent. C'est normal, tout ça, c'est normal. Mais je me dis, allez, j'en sais rien, les 70%, j'ose espérer, d'hommes bien. Et moi, je me sens plus concerné. Mais des jeunes, ils sont dans des difficultés absolues.
Vanessa, je peux ?
Oui. Je ne sais plus comment se comporter avec les femmes. Est-ce que je peux lui faire la cour ? Est-ce que ça n'a pas pris pour du harcèlement ? Dans les entreprises, les services RH donnent des consignes. On en arrive au système américain où tu ne montes pas dans un ascenseur avec une collaboratrice.
Parce que les hommes ont tellement à exagérer qu'aujourd'hui, voilà, on en est arrivé.
Les réunions, tu es au moins deux, ou sinon tu laisses la porte ouverte.
Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils ont exagéré. Il y a eu beaucoup d'abus.
Oui, mais à un moment, il y en a qui vont payer. Non, mais je ne le nie pas, ça.
Il y a eu beaucoup d'abus.
Il y a une génération qui va manger de l'autre côté.
Attends, il y a Michel.
Oui. Je suis désolée, mais vous avez un côté prédateur, hein, quand même.
Vous avez
vous
quoi
Vous avez, moi, ne dis pas vous avez, parce que moi, je me sens
qu'est-ce
pas
clair. Qu'est-ce que tu as dit, Karine? Qu'est-ce que tu as dit, Michel? Je n'ai pas entendu.
Attends. Les hommes attends. Prédateurs.
Les hommes non, ont un côté
prédateur. Dis pas vous avez. Dis les hommes si tu veux, mais dis pas vous, parce que moi je suis pas vous.
Mais je te dis Karine, pas à toi. Donc, je dis les hommes en général.
Les hommes peuvent avoir, mais pas on. Dis, peuvent avoir un côté prédateur. C'est mieux. Pas on. Parce que on, ça inclut tous les hommes.
Oui, bon, arrête, on va pas jouer sur les mots.
Oui, mais à chaque fois tu me dis ça. Mais si, les mots ont de l'importance.
Alors,
je
on a.
Moi, je parle oui, français, attends, y a Safi... je connais les mots.
Ok, Karim. On a Safia qui voudrait te répondre. Safia.
Non, enfin, je me retrouve.
Qui voudrait s'exprimer peut-être sur autre chose, j'en sais rien.
Non, je suis bien dans la théma, dans le sujet. Moi, je me mettrais effectivement du côté de Karim dans la mesure où est-ce que je pense qu'il y a quand même une violence.
Oui.
Une violence qui est retournée par rapport à une période, à un effet boomerang et à un effet de purge qu'on est en train de traverser actuellement.
Merci.
Et moi, j'accepte pas. Non, moi, j'ai envie d'être juste par rapport à ce qui est émis sur la table ce soir. Et dans la table, enfin, dans le débat qui tourne.
Dans le débat, oui.
Et donc, par rapport à ce que je constate, je suis terrifiée qu'effectivement, que les garçons maintenant soient. Congelés et tétanisés à l'idée de rentrer en contact, mais de manière tout à fait saine et normale avec une femme. Et ça touche toutes les catégories d'âge. Hein. C'est de la normalité. C'est pourquoi, moi, ces féminicides, tous ces mouvements féministes ultra-boboïsés qui n'ont pas de problème, ces gens, elles sont bourgeoises planquées qui parlent pour les autres. Je pense que la véritable liberté d'une femme, enfin moi je me mets dans ce cas, c'est qu'elle soit dans l'attitude d'avoir s'efforcer sur tous les plans, économiques, financiers, tout ce qu'on veut, intellectuels, pour pouvoir être libre de vivre sa vie intime, personnelle, sur tous les plans. Et là, on prend vraiment une mauvaise tangente, enfin un mauvais plan, parce que ça se chamaille partout. On a vu Badinter la dernière fois qui est venu, qui est sorti à Uri, et puis on a vu tous les rigoristes, les conservatismes de l'ancien monde qui ont protégé justement ce système. Et tu vois, l'effet PPDA, ça c'est catastrophique, parce que c'est ce type de fonctionnement qui était complètement déviant et grave. On va pas mettre sur la table.
Je suis 100% d'accord avec toi, mais et tu l'as dit d'ailleurs, on ne peut pas globaliser, parce que là, on arrive à un effet, comme tu dis, boomerang. Donc en gros, ce qu'ont vécu les femmes, en gros, on a le sentiment qu'il faut le faire payer aux hommes maintenant, quels qu'ils soient.
Et c'est pas juste. C'est pas juste.
Et en plus, ça crée des... Et encore une fois, moi, je ne suis pas concerné, mais sur les jeunes générations, ceux qui sont en mode de rencontre, et vous en connaissez, j'en connais, ils ne savent plus comment se comporter avec une femme. Ils sont perdus.
Mais pire, ils ne voient plus de dimension d'engagement. Et puis, ils
Forcément. Parce qu'ils se disent s'engager, mais à quoi bon? J'ai en face de moi un pitbull. Qui a envie de s'engager avec un pitbull?
C'est terrifiant.
Michel.
Le moindre mot que tu sors, tu dis attention, c'est pas dans les valeurs féministes. Mais à un moment, la femme sont différents et complémentaires. On n'a rien à imposer à la femme, et je ne l'ai jamais fait, et on est nombreux à l'avoir jamais fait. Mais un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et on
c'est
a les mêmes droits, on doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais là, on n'est plus... Et je pense qu'on est en train de gommer la relation de séduction. Certains appelaient ça la courtoisie.
Je pense qu'on est dans une transition qui arrive. C'est normal.
Tu vois, le truc... Oui, mais je sais que dès qu'on passe d'un système à un autre, il y a une période difficile.
C'est ça.
mais je dis malheur à ceux qui vont la traverser.
Ouais, c'est compliqué hein, quand on a 30 ans aujourd'hui. 20 ans, 30 ans, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir 30 ans et 20 ans.
C'est compliqué, on est tous d'accord du respect de la femme, du droit de la femme. Pour moi, c'est une évidence et ça l'a toujours été, c'est pas une mode.
Et Michel, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe
aujourd'hui? J'ai refusé le couple, j'ai refusé le mariage. Je ne voulais surtout pas me marier. Surtout pas.
Oui.
Ah, mais
même si tu refuses le mariage, ça ne change pas ta relation à l'homme. Enfin,
alors, elle va nous dire pourquoi. Elle va nous dire pourquoi.
Ça ne change pas, mais je suis indépendante.
Est-ce qu'il y a un traumatisme Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a toujours une raison aux choses.
C'est-à-dire que j'ai vu mes parents se déchirer en France et l'adolescence. Alors, ça ne m'a pas incité à.
Ça marque. C'est des choses qui.
Ah oui, ça marque. Ouais,
elles sont en main. Ouais.
Ah ouais.
Moi aussi, non, mais je suis comme Michel. C'est ton histoire.
Mais Safia non plus, Safia, n'est-ce pas? Tu es pas dans le même.
Ah ouais, parce que moi j'ai eu une sale histoire avec ma mère et je me suis.
T'avais une mère assez dure, Safia. Hein. Très compliquée.
Moi, je me suis qualifiée de pervers narcissique et j'en parle de manière complètement.
Tu m'en as parlé. Du coup, ça t'a refroidi concernant le mariage, toi aussi, hein? Sur le sujet de...
Je me suis libérée pour vivre pleinement ma vie de femme dans toutes les conditions.
Et pas envie de mariage ni d'enfant, en tout cas. Pas de mariage, pas d'enfant, pas envie.
Non, parce que je me suis
complètement... Et ben moi non plus.
Je me suis
complètement... Ça, c'est un droit, mais ça ne change rien à la relation à l'homme, marié ou pas marié.
Karim, on ne peut pas résoudre un problème en disant... Oui, mais ça change rien, etc. Non, il faut connaître l'histoire des gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé... mais j'entends bien.
T'as pas compris c'est pour ce
ça...
que je voulais dire.
Si, mais c'est pour ça que j'ai compris ce que voulait dire Michel et Safia également. Parce qu'il y a toujours une raison aux choses. Il faut plonger dans
bien
le
sûr,
passé pour comprendre pourquoi les gens... Il y a un traumatisme qu'on traîne avec soi quand on veut pas d'enfant. Quand on est catégorique, aussi tranchante, en disant pas de mariage, pas d'enfant, et dit sur un ton... où c'est irréversible, c'est que tu traînes avec toi quelque chose de lourd.
Mais pas
forcément. Et donc Michel, c'est ce qui s'est passé, Safia également. Souvent, hein.
Non, il a raison.
Karim,
oui,
souvent.
Pas forcément, je vais laisser la parole,
souvent.
Je renverrai juste. Je viens de lire des articles sur l'Italie. Regarde le taux de natalité en Italie, c'est une catastrophe, c'est pire qu'en Allemagne. Donc ça veut dire que toutes les femmes ont des problèmes relationnels.
Économiquement parlant, il y en a qui n'ont pas envie de faire d'enfants.
Non, mais il y a des gens qui disent le monde qui arrive est tellement violent de leur point de vue que je ne veux pas mettre au monde quelqu'un qui va probablement souffrir.
Une victime.
C'est des raisons qui sont parfois plus plus globales qu'un parcours individuel qui s'entend. Hein, je respecte.
Bien sûr. On a Fatima, tiens, qui vient.
Chacun et les difficultés. Mais...
Ouais. Fatima est avec nous. Fatima, bonsoir, Fatima.
Bonsoir Vanessa, je suis très contente de vous avoir.
Oui.
Alors je voulais intervenir si vous permettez.
Super, mais on a la pause, c'est ça? Fatima, tu interviendras juste après cette petite pause, elle est très courte.
D'accord.
Ok, à tout de suite. Karim, pareil, Safia et Michel, je vous reprends juste après. Et Azoul, pareil, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, 01 53 48 3000. Et avant de prendre Fatima, je voulais vous lire. On parlait d'Elisabeth Badinter, hein, c'est ça. Hein, je crois que c'était. Alors attends, j'essaie de retrouver. Oui, alors, donc c'est notre amie. Ça y est, je l'ai retrouvée. Notre amie. Alors j'oublie son nom à chaque fois, Safia. Ah, j'ai du mal, ma Safia. Hein. T'as un prénom, je dis toujours Sophia. Alors, Elisabeth Badinter qui a dit ceci, qui vaut ce qu'il vaut, et c'est, voilà, on en fait ce qu'on veut. Et écoutez bien, il ne peut pas y avoir de libération des femmes et d'égalité des sexes quand le modèle dont on s'inspire est la Bible ou le Coran. La libération des femmes sans une bonne part de laïcité est impossible. Voilà. Donc elle l'a écrit dans Place aux femmes. Voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je suis pas loin de son avis, hein, parce que pour moi, quand on puise dans des écrits antiques, j'ai envie de dire, eh bien, c'est, on n'est plus dans le, dans le monde moderne, dans le monde du présent, j'ai envie de dire du présent. Voilà, parce que toutes ces choses qui ont été mises en place dans le présent du moment où ça a été écrit, c'était le présent de ce moment-là. Donc c'était la réalité de cette époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre réalité. Et puiser dans des écrits qui ne sont plus d'actualité, quoi, qui ne sont plus aujourd'hui, qui n'ont pas été écrits aujourd'hui, je veux dire. Donc c'est vivre encore la tête des siècles en arrière. C'est ce qu'elle voulait dire, je pense. Alors, je vous reprends, hein. Je prends Fatima de la Courneuve. Oui, Fatima.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, ma chérie.
Ben, écoute, je suis très contente de vous avoir. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec Karim du tout. Parce que sur beaucoup de choses, déjà, sur la relation entre ex, bon, c'est un autre débat.
Oui.
Et moi, je vais parler en ce qui me concerne.
Oui.
J'ai 69 ans. Et à 19 ans, je me suis fait, disons, agresser sur le métro, dans le métro parisien. J'ai cette vision toujours. Je me suis fait ploter par 4 étudiants français qui m'ont ploté, qui ont soulevé ma robe, qui m'ont touché les seins, touché le derrière. Et on avait tout le monde là qui regardait. Il n'y en a pas un seul qui a branché. Ce souvenir, il est toujours dans ma tête.
Il y a juste une chose que je relève quand tu as dit 4 étudiants français. On ne sait pas les origines des gens à partir du moment où on n'a pas vérifié leurs papiers.
Hein? Non, je ne les ai pas vérifiés leurs papiers, mais je les ai vus.
Voilà, tu as vu juste.
Noirs, ni des étrangers, ni un arabe.
Voilà, bon, donc on ne sait pas trop. Ils avaient l'air d'être européens ou...
Non, ils étaient européens.
D'accord.
Ils parlaient entre eux.
Okay.
Ils parlaient entre eux, ils s'appelaient par les prénoms.
Ah oui, d'accord. Okay. Donc ils t'ont agressé.
Ils m'ont agressé, ils sont montés dans le métro, ils m'ont agressé. Ils étaient 4 et ils m'ont agressé et personne n'a bougé. Et là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc, vous voyez...
Mais les agresseurs, il y en a toujours, hein, dans le métro, jusqu'à... Et de toute origine confondue, j'ai envie de dire. Mais il y en a toujours, bien évidemment, à notre époque encore. Ben oui.
Bien sûr, je suis d'accord. Mais je vous dis, ça se passait il y a déjà... J'ai 69 ans. Alors, vous imaginez, j'avais 19 ans.
Oui. Ben oui, non, mais ça a toujours été le cas, je sais bien. Karim, il est là, Karim.
Non, mais juste je tenais à dire ça, mais sinon, c'est un autre débat.
Oui, mais comme tu as répondu à Karim, moi je l'ai pris à l'antenne pour qu'il puisse te répondre, hein, c'est plus juste.
Ah oui,
voilà.
Bien sûr. Vanessa. Je n'ai plus rien à dire.
Non, il n'y a pas de souci, tu restes là, Fatima, Karim est là pour te répondre. Donc Karim.
Alors, sur ce que j'ai entendu, c'est compatible, enfin, en tous les cas, j'ai de l'empathie parce que tu as vécu, ça c'est évident. Je ne vois pas la contradiction par contre à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et concernant... Si tu permets que je termine, juste après je te laisse la parole. Et tu as dit, je ne suis pas du tout d'accord avec Karim. Et puis le truc avec les ex. Alors je sais que les ex, ça fait mal à beaucoup. Mais n'en déplaise. Non, mais je n'avais pas pu répondre.
Non,
à l'époque, ça avait coupé. Vanessa, eh bien, c'est dommage qu'il ait
raconté. Il veut répondre ce soir, Karim. Vas-y.
Vous
avez tout le temps, tous les deux, de toute façon. Vas-y, Karim.
Moi,
j'en ai pas beaucoup.
Tu n'as pas de temps, Fatima, pourquoi ? Qu'est-ce que tu
as fait ? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant.
Oh, tu vas rester avec nous jusqu'au bout.
Et sur le débat des ex,
pas une attaque, mais quand on dit...
Reste avec nous, Fatima, ma chérie.
C'est pas une attaque, c'est du réel. Ce n'est pas une attaque.
Non, le réel,
c'est parce qu'elle a de mauvais souvenirs, oui.
Mais j'entends complètement, et c'est pas quand je le dis, c'est pas une posture.
Non, mais...
C'est affreux ce que tu as vécu, et je le cautionne pas. Mais... C'est toujours le même principe, on peut pas faire d'un exemple une réalité.
D'une réalité.
Tu peux considérer que tous les hommes vont ploter les femmes dans le métro. Bien sûr,
c'est pas ce que j'ai dit.
Tu dis je suis pas d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
J'ai pas dit que tous les hommes étaient comme ça. Non, loin de là.
En quoi t'es pas d'accord avec ce que j'ai pu dire?
J'étais pas d'accord avec vous sur beaucoup de points déjà la dernière fois, de rester amis avec ses ex. Je pense pas que ça soit possible.
Mais si, la preuve, ça l'est, puisque je le fais. Donc ça veut bien dire que c'est possible, puisque ça existe.
C'est vous, mais je ne pense pas que c'est possible.
Et vous, c'est vous. Ça, une fois qu'on a dit
ça, oui, mais bon, on n'a pas beaucoup
bougé.
Moi, je pense.
Non, mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui vit quelque chose, ce n'est pas possible, puisque je le vis. Dis, je ne suis pas d'accord.
Non, mais on ne peut pas dire à quelqu'un.
C'est mieux que de dire ce n'est pas possible.
Quelque chose que je dois le vivre. On ne peut pas rester comme ça en bon terme.
Est-ce que j'ai dit on doit ? J'ai jamais. Dans aucun débat, je dis il faut. Je défends une histoire et un point de vue.
Ben, voilà. Je sais bien, mais je suis d'accord avec Vanessa, on ne peut pas rester d'accord avec son ex quand on a mis un trait et un trait. C'est mon point de vue.
Mais c'est ton point de vue, il est respectable.
Voilà.
Mais bah, il est aussi entendable que le mien.
Aussi, mais voilà.
Et ben, voilà.
Mais apparemment, il y a des exceptions.
Moi, je suis en harmonie avec mes enfants, bien mes petits-enfants, ouais. Mes ex-épouses, leur maman. Et on ne vit pas ensemble, on n'a pas fait un kibbutz.
Non, mais
apparemment, il y a des exceptions.
Avec bienveillance, sans ambiguïté, sans être libertaire, comme a dit l'auditrice.
Moi, je pense que c'est impossible.
Et tout va bien.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Vanessa.
Non, c'est impossible pour toi. Mais dis pas c'est impossible. Je ne suis pas le seul à vivre en harmonie avec les ex-mamans des enfants.
Alors, sinon, concernant notre thème d'aujourd'hui, Fatima.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui se dit depuis tout à l'heure, l'évolution de la liberté, de la femme, j'ai envie de dire, des droits de la femme, mais qui se font, on va dire, à pas de fourmi dans certains endroits du monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous lire ce passage d'Elisabeth Badinter qui dit « Il ne peut pas y avoir de libération des femmes et d'égalité des sexes quand le modèle dont on s'inspire est la Bible ou le Coran. » Elle les renvoie dos à dos, elle n'a pas fait de différence. « La libération des femmes sans une bonne part de laïcité est impossible. »
C'est-à-dire que moi, je ne connais pas le Coran, mais
c'est à peu près pareil.
J'ai un petit peu tout lu la Bible, et il y a beaucoup d'inceste dans la Bible.
Quoi? Oui. J'ai failli aller travers mon nom. Comment ça, de l'inceste?
Il y a beaucoup d'inceste dans la Bible.
C'est-à-dire?
D'inceste. L'inceste.
L'inceste dans la Bible?
Il y en a pas mal.
Je ne sais pas. Ça m'a pas sauté aux yeux, ça, par contre.
Je l'ai un petit peu lu, mais pas énormément. Mais bon, il y a des incestes dans la Bible. Le Coran, je ne connais pas du tout.
Bah, écoute, tu m'en apprends parce que je pensais pas qu'il y avait. Alors, je sais pas si Safia est au courant. Safia.
Enfin, moi, dans proportion, je me suis intéressée au Tanakh, à la Torah, aux évangiles et au Coran. Donc, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes d'extrême violence sur le plan incestuel. Oui. Peut-être si ma mémoire est bonne, ça se fait. À un moment, il y a l'un des. Je crois que c'est Noé qui se retrouve tout nu devant ses filles. Bref, si j'ai peur de ne pas me tromper, sous réserve de vérification. Ouais. Et après, de l'autre côté, par contre, est-ce que je peux vraiment rapporter par rapport à Elisabeth Badinter?
Oui.
Oui, enfin, j'ai eu son propos. Enfin, j'étais très en pointe. J'apprécie l'aspect philosophique du personnage. Oui. Et après, moi, je me concentre sur l'ici, le maintenant, le retournement de situation. Quand elle dit que la libération de la femme ne passe qu'à travers la laïcité, moi je m'inscris en fond, parce qu'elle est plus de son temps, de son époque, à mon sens, je parle en mon nom propre, et après de l'autre côté, la puissance des textes spirituels dépasse le fondamentalisme. Et je pense qu'elle est tellement anticléricale, qu'elle est tellement laïcarde, qu'il y a des choses qui la dépassent, qu'elle ne peut pas comprendre, Elisabeth Badinter. Avec tout le respect que je lui dois.
Attends, t'as dit quelque chose juste avant. Tu as dit, les textes sont
incestuels.
Une dimension, je ne sais pas, t'as donné une dimension qui m'échappe alors.
Pardon ?
Tu as parlé de dimension des textes.
Je disais que quand je m'inscris dans la foi de pratiquant, de croyant,
est-ce que tu peux, par exemple, dissocier la croyante et de la personne qui prend de la distance et qui lit avec sa raison et non son émotion et son cœur? Parce que quand on est dans la foi, quand on lit en tant que croyant, On mais raisonne non, plus, hein. Pas, ah, raisonne, non, mais toutes les religions, on raisonne plus du tout. Il n'y a plus de raison.
Vanessa,
on est dans l'émotion.
Vanessa,
mais moi, quand je lis, je ne lis pas. Attends, ne crie pas. Je ne lis pas en tant que croyante. Quand je lis n'importe quel écrit religieux, pour, tu vois, j'essaye vraiment de faire l'effort, de vraiment de sortir de ma foi, à la limite, tu comprends? Pour pouvoir, si tu veux, être lucide de ce que je lis et trouver des cohérences ou des incohérences. Alors, je te laisse continuer, Safia. Voilà ce que je comprends.
Pardon?
Je te laisse continuer. Parce que tu as dit... Voilà.
Attends, je vais recadrer mon propos par rapport à...
Oui, voilà, essaye de plutôt...
Il faut que je sois dans la clarté. Je dis que par rapport à Elisabeth, elle a soulevé une espèce de polémique dans le débat public national.
Oui, mais peu importe, c'est son idée. Elle la défend. Et beaucoup la partagent.
Moi, à mon niveau, ce que je t'ai exposé...
Voilà, mais toi, voilà. Mais tu penses pas que la laïcité, c'est ce qui peut libérer la femme?
Non, je te disais
quand on voit ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan et ailleurs,
la spiritualité,
même dans nos pays d'origine, où la femme a besoin, attends, crie pas, où la femme a besoin d'un tuteur, voilà, dans les pays du Maghreb, heureusement, il n'y a pas de police des mœurs pour diriger comment la femme doit, voilà, surveiller, veiller à ce que la femme et bien son foulard sur la tête. Ça n'existe pas dans les pays du Maghreb et c'est tant mieux. Mais, néanmoins, il y a des lois où, comment dire, concernant par exemple l'héritage, la femme hérite la moitié de son frère. Alors ça, ouais, bah oui. Alors là-dessus, tu dis laïcité, elle a du bon. Le tuteur, et je t'en passe, c'est des meilleurs. La polygamie, etc., etc. Donc, finalement, la laïcité, on se dit, bah, c'est ce qu'il y a peut-être de mieux, non? Pour libérer un peu la femme. Après, c'est les hommes qui font les choses. Mais la laïcité, elle a du bon. Moi, je vois
Vanessa.
Ça comme ça. Non?
Vanessa?
Oui, vas-y.
Ouais. Alors, je vais être encore plus rigoureuse et précise. Je te dis que la laïcité, tu le sais, comme on le sait tous, c'est une invention de nos principes et France, c'est en France, ça a été créé, la laïcité, l'unité.
Oui, alors
c'est pas planétaire, même les Américains, ils ne la comprennent même pas.
Ah non, mais attendez, ils la pratiquent, mais différemment.
On ne la saisit pas comme ça, c'est intégré à nos valeurs franco-françaises.
Oui, et alors? Mais ça veut rien dire ce que tu dis.
Elle, si elle a droit d'avoir son petit point de vue, Elisabeth Badinter, mais ça recouvre pas des pratiques qui sont planétarisées et des fois qui sont dans tous les coins de la planète. Ou sur le plan des évangiles.
Non mais attends. Attends. Attention, parce qu'il y a plusieurs plusieurs niveaux hein, dans ce qu'on dit là. Hein. Quand tu dis la laïcité, là tu es en train de répéter les propos sans t'en rendre compte de certains, je sais pas comment le dire parce que j'ai envie de blesser personne. Comprendra qui voudra, et qui disent oui, mais ailleurs, en Angleterre, je sais pas, ils citent des pays où il n'y a pas de laïcité, et pourtant, ben ouais, mais ces pays-là, pour autant, ne se basent pas sur des textes religieux pour faire leurs lois. Mais le danger de nos pays arabo-musulmans, le problème, il est où? C'est que tout simplement, ils puisent là où ça les arrange, pour l'héritage, pour beaucoup de choses. Eh bien, et c'est pour ça qu'on parle de laïcité, tout simplement, pour régler peut-être certains problèmes. Parce que les pays que tu cites, ces pays où la laïcité n'est pas vraiment, disons, inscrite dans leur constitution, quand il y a constitution, ils la prônent quand même, la laïcité, puisqu'ils ont séparé déjà l'Église et l'État, et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans les textes religieux pour faire leur loi. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux te dire, Safia. Parce qu'attention, on est dans sur une frontière là très fine. Je te reprends juste après, Safia. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Bravo.
Moi, j'ai pas besoin d'être rajol, mais je fais le battle. Je me laisse pas faire.
Merci, mon Giovanni.
Ah, Giovanni m'a tué de rire. Hein. Répondez à un auditeur, je vous raconte même pas. C'est ça, comme ça tu fais le standard, Giovanni. Agda, hein. Comme ça, tu raquettes les auditeurs.
Il faut faire tourner la boutique, Vanessa.
Il faut la carte de fidélité, de confidence sur Beurre FM pour passer à l'antenne.
Voilà.
Et l'auditeur a dû lui dire, ah bon, c'est combien? Il lui a dit, 300 euros, 3 milliards de dinars.
En dinars.
3 milliards de dinars. Il lui dit, moi ici, il faut que je sois payé parce que je fais le ménage, je fais tout, tout, tout ici. Voilà, et Vanessa, elle prend l'argent, elle part en Espagne.
Elle va en Espagne, direct. Jet privé. Ah, punaise,
jet privé et tout, Zama. Hey, ma.
Les chiens en classe business.
Ah oui, mes chiens, c'est toute ma vie. Tiens, on va le prendre, l'auditeur. Karim, bonsoir Karim, numéro 2.
Oui, Paris. Bonsoir Vanessa.
Tu as payé, donc ça y est.
Tu as pris ta carte fidélité, t'as donné tes numéros de carte bancaire.
J'ai pas donné mon numéro de carte bancaire. Voilà.
Il n'a pas donné.
Il m'a donné info, Wakala. Okay,
il t'a fait confiance, il t'a fait confiance.
C'est social, mais je ne le connais pas par cœur.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir Karim, bienvenue à toi. Baisse un peu le son, s'il te plaît. Merci, petit Giovanni.
Vanessa.
Oui.
Alors, je suis très content de t'avoir à l'antenne, parce que je t'ai écouté pendant de nombreuses soirées.
Ah.
Vraiment, depuis quelques années, parce que ça fait longtemps que tu fais cette
émission. Oui.
Et oui. Là, je vais te faire une confidence.
Ah.
Je peux te faire une confidence. Parce que
mais bien sûr, est-ce que tu peux baisser le son, Giovanni?
Vas-y. En fait, je suis moi-même à l'antenne sur une radio associative parisienne.
Ah.
Je passe dans mon antenne en même temps.
Et tu parles en même temps, là, en direct?
Et là, je suis en direct aussi, parce que moi aussi, j'ai une émission d'antenne.
La concurrence, elle nous a piraté.
C'est pas une concurrence, nous, tu vois.
Alors, vas-y.
Voilà. Alors, nous, on s'appelle Cause Commune 93.1. C'est une petite radio associative. On est à Porte de Saint-Ouen.
Cause Commune.
Voilà, tu peux regarder. C'est moi.
90.
93.1.
93.1. Oh, ben, je vais t'écouter.
Et voilà, et je me suis dit, ça peut être sympa, parce que moi aussi, je suis en direct avec des auditeurs, mais moi, on m'appelle un peu moins que toi, parce que toi, t'es quand même assez importante dans le paysage radiophonique, moi. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler, comme ça, elle va me donner des conseils pour un petit peu faire venir les auditeurs sur mon antenne.
Ah, bah écoute, je sais pas si je vais pouvoir te donner des conseils, parce que je pense que tu as tout compris, en tous les cas, du métier. Déjà, tu as la voix, parce que la voix, c'est très important en radio. Bon, plus qu'à la télé, tu le sais.
Oui.
Et d'autre part, eh bien, tu as toutes les clés entre tes mains, puisque ce soir tu nous as appelé. Tu fais du direct en même temps.
Oui.
Eh bien, en com, on fait pas mieux en radio. Et bravo. Moi, j'ai reçu un jour Aymeric de Skyrock.
Ouais.
Qui voulait voir parce qu'il écoute l'émission. Alors, Aymeric, si tu es à l'écoute, gros bisous à toi. Donc Aymeric qui est un grand animateur de radio sur Skyrock, très connu par les jeunes, etc. Et puis il dit à un des réalisateurs, je crois que c'est, je sais plus quel réalisateur à l'époque, et qui connaissait, il lui dit, écoute, moi j'écoute Vanessa, j'aime bien son émission, j'aime bien comment elle fait, etc. J'aimerais bien un jour la rencontrer et si possible venir assister, tu lui demanderas. Alors, je lui dis, mais bien sûr qu'il vienne, il est venu, il est resté avec nous toute la soirée ici. Voilà, et tu vois, voilà, entre collègues, confrères,
ah bah
tout
ouais.
Ça. Ça fait plaisir.
Mais en plus, réellement, Vanessa, là, c'est pas du faux. Moi, je t'ai écouté hein, dans mon lit le soir, certaines soirées, il y a quelques années.
Ouais. Comme Méziane, dans son lit, il nous écoute.
Et voilà, mais souvent, tu sais, c'est la radio, soit on écoute soit dans son lit, soit dans la voiture, on est là, c'est le petit moment un peu suspendu. Et bon, ça me fait très plaisir de t'avoir ce soir à l'antenne. Alors, tu me dis que t'as pas donné de conseil. Est-ce que je peux te poser encore une question, Vanessa?
Mais bien sûr.
Comment tu t'organises? Comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tu prépares un peu avant ton émission? Comment tu fais pour que les auditeurs t'appellent régulièrement et que t'es bah voilà que toi ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'il faut créer le rendez-vous? Est-ce que t'as ramé au départ, c'était compliqué?
Alors,
est-ce que t'as eu des moments de doute où ça plaît pas, où le standard sonnait pas? Parce que moi je vis ça et là je le vis encore là, ça peut m'arriver. Donc si t'as des petits conseils par rapport à ça, moi je ferais.
Eh ben écoute, on y va. Alors moi il y a un truc, c'est que je ne prépare rien, je ne sais pas préparer. Je suis de tout temps depuis du plus loin que je me souvienne, depuis ma prime jeunesse. En classe, déjà, j'étais assez brouillon. Je suis quelqu'un qui est très, très fouillis, très brouillon, très voilà. Je suis pas du tout organisée. Et que, c'est ça qui m'a réussi. Voilà, comme quoi, tu vois. Donc, c'est comme l'enfant à qui on dit, les parents disent, qu'est-ce que je ferai de toi plus tard, tu vois. C'est un peu ça. Et donc, j'ai touché un peu à tout dans ma vie, mais je suis quelqu'un qui peut pas rester en place. J'ai la bougeotte. Et je m'ennuie très facilement, donc faut que je passe à autre chose. Je ne supporte pas l'ennui, je supporte pas la routine, donc j'ai eu plusieurs vies. Voilà, tout simplement. Et à l'antenne, quand je suis arrivée à l'antenne, bien entendu que c'est une préparation parce qu'on fait pas n'importe quoi, c'est de la radio, bien sûr. J'ai été formée pour faire de la radio. Ça, c'est incontournable. Donc, j'ai été formée. Il y a une école qui est liée à la radio et d'ailleurs, beaucoup de nos réalisateurs passent par là-bas, des journalistes également. Donc, j'ai fait mon stage, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et au bout du compte, eh bien, quand j'étais prête, je me suis lancée. On m'a fait confiance ici, la direction. Je remercie infiniment Dima, qui est notre présidente. Voilà. Et donc, je me suis lancée. On m'a fait confiance. On m'a dit, on essaye. Et quand j'ai commencé, eh bien, je peux t'assurer que les premiers mois, les auditeurs, tout de suite, hein, dès le début, les auditeurs étaient là au rendez-vous. Il n'y avait pas de souci, ils étaient là. Et l'émission, elle a commencé dès le départ à cartonner. Et en médiamétrie, cette émission a connu beaucoup de succès. Et Radio Line, il y a 4-5 ans en arrière, durant 3 années consécutives, elle a été l'émission phare. Alors, vous pouvez chercher sur Radio Line, vous tapez Radio Line, Confidence sur Beurre FM, et vous allez voir, classée parmi les premières émissions écoutées sur... en ligne, voilà, sur Internet, parmi les grandes émissions matinales des grandes, enfin, pseudo-radio, etc. Donc cette émission, même la direction de Radio Line était étonnée qu'une émission aussi tardive se retrouve avec des émissions phares, matinales, etc., en premier plan. Voilà, c'est arrivé comme ça. Je crois tout à l'heure, en préambule, je parlais, parce que je donne souvent des conseils à nos amis auditeurs, eh bien, il faut croire en ses rêves. Moi, j'ai toujours voulu réaliser mes rêves. C'est des rêves accessibles. J'ai jamais rêvé de posséder un yacht ou un jet ou machin. Non, non. Il faut avoir des rêves dans la mesure où on peut les réaliser. Et mes rêves étaient réalisables. Voilà, donc j'ai fait tout pour. J'ai pris des cours d'art dramatique, de théâtre, etc. J'ai participé à des tournages parce que j'adore ce monde-là. Et comme ça, ça m'a appris à poser ma voix. Voilà. Travailler sa voix, c'est très important. C'est comme un chanteur. En radio, si on n'a pas la voix, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis j'ai ma politique à moi, qui est la mienne, tu comprends? Donc, qui est le fait de se tutoyer, de tutoyer les auditeurs. On se tutoie parce que j'estime qu'on est une famille, je rentre dans l'intimité des auditeurs, voilà, et je me dévoile aussi, puisque je parle aussi de ma vie, et donc quand on se dévoile, on ne triche pas, donc donc il faut être transparent, il ne faut pas avoir de filtre, et puis le tutoiement rapproche, les gens se sentent en confiance, et ils ont raison de l'être, voilà. Et puis en dehors de la radio, parfois, il m'arrive aussi de suivre certains qui étaient vraiment au bout du rouleau, au bord du gouffre, on va dire. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il faut être sincère avec les gens. Faut pas... Je pense que les auditeurs le sentent. Parce qu'il y a des moments où je n'attire pas toujours la sympathie. Parce qu'il y a des moments où je suis un peu dure dans certains domaines. Par exemple, quand on parle de religion, des choses comme ça, il y a des choses qui me dérangent, je le dis parce que je suis sans filtre. Et je ne vais pas jouer l'hypocrite en disant « Ah oui, non, mais c'est... Ah non, non, tout va bien, c'est bien, etc. » C'est pas vrai. Il y a des choses que je ne pense pas, je le dis. Voilà.
Et ça, c'est le conseil qu'on m'a donné. Viens aussi avec tes bagages et l'auditeur va le ressentir. De toute façon, tu peux avoir un jour moins bien ou t'es un peu triste ou t'as passé une sale journée. Et d'être honnête et transparente à l'antenne fait aussi en sorte que tu crées aussi un moment avec tes auditeurs.
Eh oui. Mais ils le sentent. Ouais. Ils le sentent, les auditeurs. Ils le sentent parce que, tu sais, tu peux pas tricher. Tous les soirs, là, je fais 2 heures, fut un temps où c'était 3 heures.
Ouais,
mais tu ne peux pas tricher avec les gens, c'est juste pas possible, tu comprends? C'est comme si tu essayais de tricher avec ta mère qui t'a mise au monde, ton frère ou ta sœur. À un moment donné, ils te disent, bon, allez, arrête, on va se calmer. Donc les auditeurs, non, tu peux pas. Et moi, je me dévoile facilement. Donc, ils savent bien que je ne triche pas, voilà. Donc, je n'aime pas blesser, mais je ne triche pas, voilà.
Et tu penses que la radio n'est pas morte encore? Parce qu'il y a plein maintenant, on sait que nos jeunes, J'ai l'impression de te faire une interview, Vanessa, je suis désolé.
Non, mais c'est bien, tu as raison.
Mais on a l'impression, tu sais, ils ont d'autres supports. Ils zappent beaucoup Internet, ils zappent rapidement. On a connu, nous, les grandes heures FM, quand on était jeunes, et je suppose toi aussi, on écoutait la radio pendant la nuit.
Ah oui, bah ça, c'était...
Tu te rappelles de ça?
Mon Dieu.
Est-ce que là, tu crois qu'on a encore... la radio peut encore exister, ce format d'émission a encore sa place aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, enfin pour les plus jeunes, voilà, les jeunes adultes. Et tout le temps, parce que parfois, moi, j'ai des doutes là-dessus. Je me dis, mais est-ce qu'on a un support viable aujourd'hui?
Alors, plus que jamais. J'ai envie de dire plus que jamais. Pourquoi? Parce que peut-être la télévision. La télévision, si tu veux, est en train de changer. Elle est en mouvement, ça se transforme, etc. Parce que tout simplement, avec... c'est vrai, avec tous les réseaux, Internet, tout ça, les gens vont chercher leur programme et c'est comme quand on va au restaurant, on fait son menu. Mais par contre, la radio, non. La radio, ça restera toujours ce qu'elle est. Et parce que c'est, comment dire, parce que c'est la radio, c'est mystérieux. C'est une voix, on sait pas. Moi, j'ai jamais voulu être filmée. Voilà, je ne me filme pas, je n'aime pas ça. Je veux rester... Je suis vieille France, j'ai envie de dire, concernant la radio. Moi, j'écoutais la radio toute jeune. Donc, j'écoutais les gens de la nuit, surtout. Je faisais nuits blanches, parfois, le lendemain, pour aller en cours. C'était un peu compliqué. Mais j'avais la radio sous mon drap et j'écoutais toute la nuit. Donc, la radio ne bougera jamais. Parce que tu regardes les images à la télévision. Et même aujourd'hui, avec Netflix, tout ça, YouTube, etc., si les gens choisissent leur programme, ok, mais le visuel, d'abord, au bout d'un moment, le soir, tu fatigues, donc tu restes pas les yeux fixés, etc. Mais la radio, elle te suit. La radio te suit partout. La radio, là où tu vas, la radio est avec toi. Excuse-moi, je vais être un peu, pas vulgaire, mais bon, un peu peut-être maladroite dans ce que je vais dire, mais dans tes toilettes, la radio te suit. La radio te suit partout, sous ta douche, partout, là où tu te trouves. Et t'as besoin d'entendre ces voix qui sont familières. Et puis, on se dévoile en radio. Regardez-vous, les amis, quand vous appelez, regarde nos amis quand ils appellent, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent comme jamais. Comme ils le feraient jamais avec des proches ou l'entourage, des amis, tout ça. Non, il y a des choses qu'ils ne diront pas parce que les autres n'ont pas l'oreille qu'il faut déjà. Les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps. Le monde s'individualise. Et le seul endroit où ils peuvent exprimer, on va dire, leur souffrance parfois aussi, les épreuves par lesquelles ils passent, c'est un exutoire et en même temps une forme de thérapie. Et puis en même temps ils se sentent en confiance, ils sont rassurés parce que la voix qui revient tous les jours, c'est la voix amie. Des fois on est d'accord, pas d'accord, on peut se taper dessus, c'est pas grave, mais au fond on s'aime. C'est ça, tu comprends?
Ouais,
donc la radio ne mourra jamais.
Bon, et on rentre au domicile des gens, en fait, dans leur intimité, on fait partie de leur vie.
Mais complètement.
Je suppose que toi, t'es un rendez-vous pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, et c'est comme si tu faisais partie de leur entourage, de leurs proches. Et moi, c'est ce que j'essaie de créer là dans ma petite radio.
C'est formidable.
Je me permets de redire le nom.
C'est toi qui l'as créé, ta radio?
Non, c'est pas moi. Il y a une vieille histoire, Cause Commune. C'était l'association de Web Radio. Puis on a une demi-fréquence qu'on partage avec Radio Aligre, que tu dois connaître certainement.
Bien sûr. Oui.
Demi, en fait, 93.1.
Oui.
On est tous des bénévoles ici. Hein. On n'est pas payés, mais on est juste passionnés.
Passionné, voilà.
Et parfois, on n'a pas eu les portes d'entrée pour travailler dans des grandes radios, parce que tu sais comment ça se passe aussi dans ce milieu, parfois pour avoir des petites connaissances.
Il
y a le talent, on est d'accord.
Oui.
Et on est tous là à proposer malgré tout une grille de programme. Et on fait ce qu'on peut. On a de la chance d'avoir une fréquence FM en région parisienne.
C'est bien, bien sûr. Voilà. Bien sûr que c'est bien. Formidable.
Que tu viennes un jour ici nous visiter. Je fais une petite interview aussi.
Ah ben, je viendrai.
Écoute,
je passerai avec plaisir, Karim.
Et moi, je serais content de venir te voir aussi à Beurre FM.
Formidable. Tu seras bienvenu, vraiment.
Merci. Merci, je vais pas te bouffer, t'as bientôt fini.
On arrive à la fin. Tu veux que je termine avec toi ce soir?
Tu finis avec moi?
Ça y est, terminé.
Ça y est,
on arrive. Terminé, tout le monde descend.
Voilà, alors moi, je suis ravi de dire sur Cause Commune, on écoutait Vanessa de Beurre FM.
Voilà. Et je vous embrasse tous les auditeurs de Cause commune. Et là, on fait antenne commune, du coup.
Exactement.
C'est génial.
On prend rendez-vous ensemble. Je sais pas si tu vas propasser à ton standardiste.
D'accord. Voilà, tes coordonnées. Et puis je passerai avec grand plaisir. Tu viendras nous visiter, en tout
cas. Bancaire, surtout.
Voilà. Tu seras le bienvenu, Karim. Vraiment. Merci. Et longue vie à toi, ta radio et à vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Bisous. À bientôt, Karim. Merci. Je te repasse Giovanni. Terminé pour ce soir. Désolé, Karim Danière, Safia, Mohamed Decreil et les autres. Revenez demain. On est là demain. Voilà. Bah, terminé pour ce soir, mon...
Ça y est.
Giovanni.
C'est déjà fini.
Bah ouais. Mais on se revoit quand?
Bientôt, Inch'Allah.
Bah écoute,
non, on se revoit vendredi.
Je t'ai vu sur la grille cette semaine.
On se revoit vendredi.
Vendredi. C'est bien vendredi. C'est le jour du poisson.
Ah, c'est vrai.
C'est le jour du poisson à la cantine. J'ai mangé à la cantine longtemps. Hein. Et vendredi, on mangeait du poisson. Ben oui, on mangeait pas de viande le vendredi avant. Voilà, mon Giovanni.
Ben, ça écoute, ça.
Merci. Belle soirée à toi et belle nuit surtout.
Merci beaucoup. Bonne nuit. Vite. Et bisous à toi, tes merci. Chiens, ta maman aussi.
C'est gentil.
Gros bisous.
Bisous. Et on embrasse Karim de Cause commune. Voilà, un petit peu de pub pour nos amis. Terminé pour ce soir, chers amis. Belle et douce nuit, faite de beaux rêves. On va vous laisser avec Rai Anthologie. Alors, ça vaut le détour. Vraiment, ça vaut l'écoute. Hein. C'est juste magnifique. C'est le classique de chez Classique, classique du Rai. Les meilleurs morceaux que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et puis ensuite, il y a des rediffs, hein, des missions que vous auriez un petit peu ratées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h. De 11h à midi pour vos petites annonces. Ok, allez, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.